VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et à toutes. Anastasie Tudiech avec vous. Au sommaire ce soir, au Mali, deux gendarmes tués dans la toute dernière attaque près de la frontière avec le Burkina au sud du pays. En Afrique du Sud, l'éloge funèbre d'oncle Kati transformé en manifestation contre le président Jacob Zuma. Nouveau drame de la Méditerranée, près de 146 migrants portés disparus au large de la Libye. Seul survivant, un jeune Gambien de 16 ans. Le 28e sommet de la Ligue arabe s'est ouvert en Jordanie. Terrorisme et processus de paix israélo-palestinien au cœur des dissensions. Vous retrouverez Eric Manigrakiza à la fin de ce journal pour les sports et Morgan Guiriac pour la Minute Éco. Mais tout de suite, c'est le journal. Deux gendarmes maliens ont trouvé la mort dans une attaque à Boulikessi, une localité située non loin de la frontière avec le Burkina. L'attaque avait pour cible un poste de sécurité. C'est la deuxième fois que ce même poste est attaqué par des bandits armés. Kassim Traoré.
Au moment où les regards sont tournés vers les travaux de la conférence d'entente nationale, sur le terrain, la réalité est tout autre. Les attaques deviennent quotidiennes. C'est ainsi que le 28 mars 2017, vers 23h, des hommes lourdement armés ont attaqué le poste de sécurité de Boulikessi, non loin de la frontière Mali-Burkina Faso. Deux gendarmes ont été tués, le troisième porté disparu. Les deux gendarmes maliens tués sont Seydou Diko et Moussa Souguna, tous deux de la promotion 2000 et 2011 de la Gendarmerie nationale du Mali. Cette attaque est la deuxième dans cette localité. Le 9 mars 2017, une dizaine de soldats maliens avaient été tués, 10 autres blessés avec des disparus dans la même localité. Ces attaques s'expliquent par l'implantation d'une nouvelle katiba dans Sardine entre le Mali et le Burkina Faso. Souvent, elles mènent des opérations vers la frontière nigérienne. Face à la multiplicité de ces attaques, certaines populations ont commencé à se déplacer vers des localités plus sécurisées. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le gouvernement congolais a annoncé aujourd'hui que la justice militaire enquêtait sur la disparition de deux experts de l'ONU dont les corps ont été découverts hier dans le centre du pays. Pour la représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, Michael Sharp, l'un des deux experts, travaillait en première ligne pour identifier les problèmes et les résoudre. Amnesty International, pour sa part, demande à Kinshasa de poursuivre les recherches pour retrouver les victimes congolaises portées disparu. En Guinée équatoriale, comparution à Malabo d'une figure de l'opposition, Gabriel C. Obiang Obono. Leader de l'un des principaux partis d'opposition, M. Obono est accusé d'injure contre le secrétaire général du parti du président Teodoro Obiang Nguema. Il encourt 6 mois de prison, une interdiction de diriger tout parti politique et une amende de 200 millions de francs CFA. Un tribunal kényan a donné au Parlement 60 jours pour voter une loi garantissant une hausse du nombre de parlementaires femmes pour se conformer à la Constitution sous peine d'une possible dissolution. La Constitution de 2010 requiert qu'au moins un tiers des parlementaires soient de sexe féminin. Situation sans précédent en Tanzanie. Une soixantaine de musulmans soupçonnés de participation à des actes de terrorisme ont décidé de boycotter leurs audiences. Ils protestent contre leur maintien en détention depuis 2013. 4 ans après avoir été arrêtés, les accusés privés de droit de visite sont toujours dans l'attente de leur procès. En Afrique du Sud, grand absent des funérailles d'Ahmed Kathrada, Jacob Zuma a été hué alors que des centaines de Sud-Africains venaient rendre hommage à l'une des figures de la lutte anti-apartheid, Claire Morin-Gibourg.
Ce devait être un moment de recueillement dans le cimetière de West Park à Johannesburg. Mais l'éloge funèbre d'oncle Kati s'est transformé en une manifestation de défiance envers le président Jacob Zuma. L'ancien chef de l'État, Kgalema Motlanthe, a profité de l'occasion pour livrer une attaque aussi sévère qu'inattendue contre son successeur. Le président sud-africain n'était pas présent aux funérailles à la demande de la famille du défunt. Compagnon de cellule, ami et confident de Nelson Mandela, Ahmed Kathrada est décédé mardi à l'âge de 87 ans. Il avait publié une lettre ouverte l'année dernière pour réclamer la démission de Jacob Zuma, empêtré dans de nombreux scandales. Un extrait de cette lettre a été lu, déclenchant de longs applaudissements. Certains n'hésitant pas à crier « Zuma, dégage !» L'ANC au pouvoir est déchiré depuis des mois autour de la succession de Zuma, qui doit quitter la présidence après les élections générales de 2019.
Plus de 60 000 Sud-Soudanais fuyant la guerre et la famine sont entrés au Soudan au cours des trois premiers mois de 2017. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'Agence de l'ONU pour les réfugiés. Le Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, a déclaré en février l'état de famine dans certaines régions du pays où 100 000 personnes seraient en proie à la faim. Nouveau drame de la migration en Méditerranée. Quelques 146 migrants sont portés disparus après le naufrage de leur canot au large de la Libye. Le récit a été livré par le seul survivant, un jeune Gambien, Jacques Aristide.
Il s'agit d'un adolescent de 16 ans qui raconte avoir survécu en mer en s'agrippant à un bidon d'essence. C'est un navire militaire espagnol de l'opération européenne antipasseur Sophia qui l'a tiré de l'eau. Puis une vedette des gardes-côtes italiens l'a amené sur l'île de Lampedusa où il a été hospitalisé. D'après le jeune Gambien, d'autres migrants venant de son pays, mais aussi du Nigeria et du Mali, étaient à bord du canot. Il y avait parmi eux 5 enfants et plusieurs femmes. Le canot est parti dimanche ou lundi de Sabratha, dans le nord-ouest de la Libye, et a commencé à prendre l'eau au bout de quelques heures. Selon les premiers éléments recueillis par l'Organisation internationale pour les migrations, l'unique survivant a été repéré presque par hasard. Ce qui fait dire à Flavio Di Giacomo, porte-parole en Italie de l'OIM, qu'il y a peut-être des naufrages dont on ne saura jamais rien parce que les embarcations coulent sans laisser de traces. Depuis le début de l'année, au moins 590 migrants sont morts ou sont portés disparus au large de la Libye.
Le prix de l'ivoire vendu légalement sur le marché chinois a baissé des 2/3 en 3 ans et la demande dans les commerces légaux chinois est également en forte baisse, passant de 2 100 $ le kilo en 2014 à 730 $ en 2017, selon une étude publiée aujourd'hui par Save the Elephants. 30 000 éléphants sont tués chaque année et le continent ne compte plus que 415 000 éléphants, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Actualité internationale à présent, la Jordanie accueille pour la 4e fois le sommet de la Ligue arabe. Au programme, le processus de paix israélo-palestinien et la lutte contre le terrorisme. Salwa Jafari.
Ce 28e sommet s'est ouvert aujourd'hui en présence de plusieurs dirigeants arabes, dont les monarques saoudiens et marocains, le soudanais Omar al-Bashir, ou encore l'égyptien Abdel Fattah Sisi et le président palestinien Mahmoud Abbas. La question palestinienne est d'ailleurs l'un des sujets brûlants de cette rencontre. Le roi Abdallah de Jordanie en a parlé longuement.
Israël continue d'étendre ses colonies et œuvre pour saper toute opportunité de paix. Et il n'y aura ni paix ni stabilité dans la région sans une solution juste et complète à la question palestinienne.
La lutte contre le terrorisme est également un grand thème de cette réunion, même si nombreux sont les experts qui n'attendent pas de décision forte sur la Syrie, comme sur les autres dossiers urgents, alors que la Ligue arabe reste minée par les rivalités. Le souverain jordanien a d'ailleurs exhorté ses homologues à jouer un rôle plus actif en Syrie, comme l'avait déjà lancé le chef de la Ligue arabe, Ahmed Abdelrahit.
La Grande-Bretagne a officiellement signifié à Bruxelles son intention de quitter l'Union européenne. Le gouvernement de Theresa May a activé aujourd'hui l'article 50 du traité de Lisbonne, déclenchant le divorce. À quoi faut-il s'attendre? Quelles sont les principales réactions? Les réponses tout de suite par Chérubin Gaby Dorsil.
Les négociations entre Londres et Bruxelles vont débuter probablement dans 2 mois et ne devraient pas dépasser 2 ans. L'UE et le Royaume-Uni peuvent néanmoins convenir d'une prolongation. Un accord doit intervenir avant octobre 2018, d'après Michel Barnier, qui dirige les négociations pour les Européens. Il va falloir donc se mettre rapidement à la tâche. L'Union européenne agira de manière unie et préservera ses intérêts, a averti Donald Tusk, président du Conseil européen. Le président français François Hollande prédit des conséquences économiques pour l'initiateur du Brexit, tout en soulignant qu'il ne s'agira pas de punir les Britanniques. L'Allemagne, poids lourd économique, insiste sur les intérêts communs. Dans l'OTAN et en Europe, a dit Angela Merkel, il faudra s'unir pour surmonter les défis. En revanche, c'est l'exultation dans le camp des eurosceptiques, comme par exemple le Front National en France, dont un responsable a lancé mercredi « Bientôt, La France aussi retrouvera sa liberté.
Je ne sais pas si c'est de l'exultation, mais en tout cas, le Canada a réagi. Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé sa volonté de passer un accord commercial avec le Royaume-Uni après la décision de Londres de déclencher sa sortie de l'Union européenne. Le chef du gouvernement canadien a rappelé toute l'importance de la récente signature de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, négocié avant que le Royaume-Uni décide de sortir de l'Union européenne. Et puis en France, coup de théâtre pendant la campagne présidentielle, tournant le dos au candidat de son propre camp, l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls, figure de la gauche, a annoncé aujourd'hui qu'il voterait pour le centriste Emmanuel Macron pour barrer la route à l'extrême droite. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Merci. Place à la Minute Écho qui vous est présentée ce soir par Morgane Guiriec.
Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo tente de remettre sur pied le secteur de l'énergie. Selon lui, la dette laissée par son prédécesseur en matière d'énergie s'élève à quelque 2,4 milliards de dollars, ce qui freine l'accès des Ghanéens à une électricité fiable et bon marché, estime-t-il. Le gouvernement mise désormais sur le solaire. Au Mozambique, l'extraction des rubis s'accompagne de violences. À Montepuez, la police et des compagnies de sécurité sont soupçonnées de recourir à la force pour se débarrasser des mineurs informels. L'an dernier, près de 40% de la production mondiale venait du Mozambique, qui a vendu pour plus de 225 millions de dollars. Amazon s'implante en Afrique du Nord. Le géant américain des ventes sur Internet va acquérir Souk.com, le numéro 1 du commerce par Internet au Moyen-Orient. Amazon s'implante en Afrique du Nord. Le géant américain des ventes sur Internet va acquérir Souk.com, le numéro 1 du commerce par Internet au Moyen-Orient. Amazon s'implante en Afrique du Nord. Le géant américain des ventes sur Internet va acquérir Souk.com, le numéro 1 du commerce par Internet au Moyen-Orient.
Place au sport, maintenant avec vous Eric Manirakiza, bonsoir.
Bonsoir Anastasie.
Alors on commence avec du football et on va en Angola où on connaît les conclusions de l'enquête sur la bousculade qui a eu lieu en février dans un stade.
Un mouvement de foule qui a emporté 17 vies, rappelez-vous, eh bien la police, les clubs de la Fédération de football sont mis en cause dans ce drame, Anastasie. C'est ce que la commission d'enquête voulue par le président José Eduardo dos Santos a retenu. Jusque-là, la justice reste muette sur ce plus meurtrier incident de l'histoire du football angolais. Sachez que le football africain a connu ces dernières années d'autres incidents similaires. En 2009, il y a eu 19 morts à Abidjan, tandis que 8 ans plus tôt, Accra a enregistré 127 tués dans un mouvement de foule.
Football toujours, mais on va au nord de l'Afrique. Des supporters de clubs rivaux se sont affrontés hier à Tunis.
Tout à fait, Anastasie. C'était entre plusieurs centaines de fans des deux équipes les plus populaires de Tunis, l'Espérance Sportive et le club africain. Ces affrontements ont eu lieu dans plusieurs endroits de la ville. La police a interpellé 16 personnes. Le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'elles seront traduites devant la justice sur instruction du procureur général.
Cristiano Ronaldo, honoré par son pays, Eric.
Exactement, Anastasie. Le Portugal immortalise en effet son idole devant quelques 5000 fans. L'aéroport de Madère est rebaptisé en l'honneur du capitaine de l'équipe du Portugal, sacré championne d'Europe l'été dernier. Il est quatre fois Ballon d'Or. Cet aéroport se trouve sur l'île natale du footballeur. 3,1 millions de passagers l'ont fréquenté en 2016, mais je n'étais pas parmi les passagers.
En tout cas, c'est un très bel hommage. Espagne, le FC Barcelone réagit à la sanction contre Lionel Messi infligée par la FIFA.
Le club catalan juge la suspension injuste et disproportionnée, bien qu'elle n'affecte pas directement le FC Barcelone. L'attaquant argentin est privé de 4 matchs internationaux pour avoir insulté un arbitre assistant lors de la rencontre entre l'Albi Céleste et le Chili.
Allez, avant de nous quitter, Eric, la dernière de la NBA.
Golden State a signé une 8e victoire d'affilée pour conforter leur première place au classement de la conférence Ouest. Les Warriors se sont imposés 113 contre 106 hier dans la salle des ambitieux Houston Rockets, pourtant tiré par James Harden qui a fini la partie avec 24 points. Encore une fois, Stephen Curry s'est distingué en marquant 32 points. Et le plus heureux chez moi à la maison, c'était Yann.
Eric Manirakiza, merci. Merci d'écouter VOA Afrique. C'est Le Monde aujourd'hui, deuxième partie, la partie magazine, qui nous emmène tout de suite en République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vote demain, jeudi, le renouvellement du mandat de la mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC, plus connue sous le nom MONUSCO. Quel bilan pour cette mission présente en RDC depuis 1999, mission qui comporte le personnel le plus important de toutes les missions onusiennes, comptant près de 19 000 soldats, policiers et observateurs militaires, essentiellement dans l'Est et à Kinshasa. Eddy Sango a joint Benny Nikes Kibelbel Oka, éditeur du Coulis. On l'écoute.
Globalement, par rapport à la mission première de la MONUSCO, ou deux missions, la protection des civils et l'appui au FARDC, la MONUSCO n'a pas réussi. Les civils continuent à mourir, les groupes armés sont toujours efficaces et opérationnels dans la partie qu'occupe la MONUSCO. L'appui au FARDC est un appui faible parce que la MONUSCO présente aussi des capacités faibles pour face aux groupes armés. Le dernier acte que la MONUSCO a posé, c'est la délocalisation des rebelles du Sud-Soudan pour le Nord Kivu et l'Ituri. Et il vient ajouter au FDLR, aux ADF, aux forces étrangères, aux forces négatives des pays étrangers, une autre force qui peut créer des problèmes au niveau du Congo. C'est vrai, la MONUSCO a fait aussi quelques petits efforts, par exemple dans le domaine de la justice, l'encadrement et le renforcement des capacités. Aussi dans le domaine, dans certains projets sociaux, notamment et a fini par exemple la construction de la clôture de l'hôpital général, certaines écoles, à Goma, des routes, ainsi de suite. Mais par rapport à la mission première que les Nations Unies lui ont donnée, le bilan n'est pas un bilan positif.
Le bilan n'est pas un bilan positif, comme vous le dites, mais sans la présence de la MONUSCO, est-ce que la situation n'aurait pas été plus sérieuse en RDC?
Aussitôt qu'on a fait 18 ans et qu'on n'a pas pu stabiliser les pays pour lesquels on a été envoyé en mission, là ne tient pas. Il faut plutôt faire une analyse inverse en disant si la MONUSCO partait, les Congolais prendront leurs responsabilités pour trouver des solutions aux problèmes qu'ils vivent. Pour ceux qui voyagent par exemple avec des MOP par les avions de la MONUSCO, ne voyageront plus, l'État congolais pourrait trouver une solution pour tous ces fonctionnaires, tous ces magistrats, tous ces journalistes qui voyagent par les avions de la MONUSCO.
Depuis un temps, les gouvernements de la RDC demandent à la MONUSCO de partir ou de réduire ses effectifs. Mais l'on voit que la situation dans le pays se dégrade.
Oui, la demande du gouvernement congolais, ce n'est pas une demande sincère. Parce que le gouvernement congolais sait qu'il est faible et que la MONUSCO essaie de l'appuyer dans ses faillites, dans ses failles et dans sa faiblesse. Il y a des régions où le gouverneur n'arrive que grâce aux hélicoptères de la MONUSCO.
Human Rights Watch et d'autres organisations craignent que la situation s'embrase avec maintenant que l'accord a échoué. Est-ce que la présence de la MONUSCO n'est pas nécessaire maintenant, plus que jamais?
Bon, la situation va s'embraser, vraisemblablement, mais la MONUSCO ne pourra pas bloquer la situation.
L'analyse de Nikes Kibelbel Oka, joint à Benny Paridi Sango. Monsieur Oka est éditeur du Coulis.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Selon un communiqué de Human Rights Watch, l'acquittement par la cour d'assises d'Abidjan de l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, pour crimes contre l'humanité, démontre les nombreuses irrégularités qui ont entaché son procès. Solange Nyamulisa a recueilli la réaction de Jim Worming, il est chercheur à Human Rights Watch pour l'Afrique de l'Ouest.
C'est une journée triste pour les victimes de la crise post-électorale. On ne veut pas dire seulement à cause de l'acquittement, mais en fait à cause de la conduite du procès contre Mme Gbagbo. Il y avait plusieurs éléments qui n'ont pas permis aux juges et aux victimes de comprendre la réalité du rôle que Mme Gbagbo a joué pendant la crise post-électorale. Premièrement, elle n'était pas jugée avec les autres cadres, les autres officiels du régime de son épouse Laurent Gbagbo, qui a empêché, je crois, la Cour de vraiment comprendre le rôle qu'elle aurait pu jouer. Deuxièmement, je crois que dans ce type de dossier, c'est toujours difficile de lier une personne de nos niveaux comme Simone Gbagbo, la femme de Laurent Gbagbo, aux événements et aux crimes qui ont été commis par les partisans de l'autre côté. Dans les audiences qu'on a vues à Abidjan, je crois qu'il n'y avait pas assez de preuves, pas assez d'analyses qui étaient faites pour comprendre les liens entre Simone et les partisans de son épouse.
Il y a deux voix maintenant qui s'élèvent pour dire qu'elle devrait être jugée par la CPI.
Oui, je crois que c'est effectivement ce dossier, cette décision qui mettent l'accent sur l'importance de la CPI comme une cour de dernier ressort. Et donc, on croit que pour les victimes de la crise post-électorale, d'avoir Simone Gbagbo jugée à la Haye créait une occasion pour jeter plus de lumière sur son rôle potentiel au sein de la crise. Et on voit que la CPI peut être une occasion de vraiment explorer dans plus de profondeur son rôle pendant cette période. Dans le cas de Mme Gbagbo, je crois que le dossier a été expédité pour répondre au fait que la CPI a demandé que Mme Gbagbo soit jugé, ce soit une décision essentiellement politique de la niveau de la Côte d'Ivoire.
Tout justement, en parlant de partisans de Ouattara, il y a certains qui ont commis des crimes et jusqu'ici, ils ne sont pas encore jugés.
C'est absolument ça. Je crois que acquittement ou décision de culpabilité de la part de Simone Gbagbo, le fait qu'elle soit jugée souligne le fait qu'il n'y a aucune procès pour le moment contre les commandants pour Ouattara, qui, comme vous avez dit, ont certainement commis des crimes très graves pendant cette crise post-électorale. Donc, ce qui est clair maintenant, c'est qu'il faut, au niveau national et au niveau international, continuer avec les enquêtes contre ces commandants et assurer qu'à la fin des enquêtes, il y ait les procès rigoureuses et équitables qui puissent examiner leurs responsabilités au sein de cette période triste de la Côte d'Ivoire.
Jim Worming, chercheur à Human Rights Watch pour l'Afrique de l'Ouest.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, mauvais temps pour les organes de presse écrite privée. Malmenés par des dettes impayées, en grande partie dues à l'État, les patrons de la presse privée haussent le ton et mettent la pression au gouvernement au moment où certains ont déjà mis les clés sous le paillasson. Des détails à Ouagadougou avec notre correspondant Issa Napon.
De 1 à 2 ans, c'est le temps d'accumulation de factures impayées en fonction des organes de presse écrite et imputées à l'État. Après les journaux Le Soir, l'hebdomadaire Gigi, journal du jeudi, la dernière victime en date de cette crispation économique, le quotidien Notre Temps, qui a cessé de paraître. Bourema Diallo en est le directeur de publication.
Certaines choses n'ont pas été bien analysées avant d'enclencher ce journal-là. Nous sommes à l'apprentissage. Mais les difficultés externes, c'est un peu les impayés. On pouvait estimer ça autour de 8 mois de fonctionnement. Nous avons des associations, des ONG qui nous doivent aussi autant d'argent.
La presse écrite privée se retrouve ainsi dans un engrenage qui englobe différents clients qui dépendent aussi des paiements de l'État. Inquiets, les membres de la CEP, la Société des éditeurs de la presse privée, s'en sont ouverts au ministre en charge de la communication, explique le directeur du journal Le Quotidien, Souleymane Traoré.
L'État, depuis 2014, après l'insurrection, ne paye plus correctement les factures. Vraiment, actuellement, tous les organes de presse sont malades. Et on a rencontré le ministre de la Communication qui a promis de faire passer le dossier au prochain conseil des ministres.
Pour le rédacteur en chef du journal L'Économiste du Faso, certains de leurs choix économiques sont souvent à reconsidérer, Abdoulaye Tao.
Si vous regardez au Burkina, la plupart des organes sont plus dans la vente à la clé. Et la vente à la clé a des problèmes aujourd'hui parce que le réseau de distribution est en panne. Aujourd'hui, si vous faites financer par la pub, il faut que votre support soit attractif. Ceux qui seront les plus attractifs qui vont peut-être survivre.
La dette de la presse écrite privée était estimée par la CEP à environ 350 millions de francs CFA en 2016, selon Souleymane Traoré. Une somme jugée dérisoire, mais qui place la vie de la plupart de ces médias privés à risque, d'où la nécessité de mener une réflexion profonde afin de résoudre cette quasi-indépendance à l'État. Jean-Paul Somda est spécialiste en économie des médias.
Dans la publication d'un journal, il y a la préparation avant la publication et il y a aussi la mobilisation du lectorat des annonceurs publicitaires. Une entreprise de presse qui n'a pas suffisamment de lecteurs, ça veut dire que le journal n'a pas beaucoup de tirages. La probabilité d'avoir beaucoup de recettes publicitaires est faible. Dans le cas des journaux qui ferment aujourd'hui, c'est des journaux qui n'ont pas bien préparé la première phase de survie sur un marché qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on dit que l'État doit, ce qui fait que certains ont des tensions de trésorerie. Mais s'il se trouvait qu'ils avaient eu l'occasion de bien se préparer, ils auraient surmonté la difficulté de trésorerie jusqu'à ce que, effectivement, l'État puisse éponger sa dette.
La CEP restera particulièrement suspendue aux décisions du prochain Conseil des ministres ce mercredi. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Dans Washington Forum, ce jeudi 30 mars, la sécheresse dans la Corne de l'Afrique, qui représente notamment une menace pour des millions de Somaliens. Selon les Nations Unies, les risques que la situation se dégrade vers une véritable famine se multiplient. Le dernier bulletin de la situation alimentaire et les perspectives de récolte de la FAO rapportent que 4 pays africains se trouvent en situation de grave insécurité alimentaire. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les causes de cette grave sécheresse? Les causes de la crise alimentaire? Quelles sont les actions d'urgence et à long terme? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses amis.
Le président Donald Trump est en train d'annuler les mesures prises par l'administration Obama pour la réduction des gaz à effet de serre. Un décret signé hier vise les règles d'émission des centrales électriques et d'autres politiques que la nouvelle administration estime entraver la croissance économique. Les groupes environnementaux disent que le président ignore la grave menace du changement climatique et qu'ils ne vont pas croiser les bras. Chérubin Gaby Dorsil nous en dit plus.
Le président Trump a ordonné une reformulation des règlements visant à réduire les gaz à effet de serre des centrales américaines. Il s'agit, dit-il, de ramener des emplois. Peut-être aucun règlement ne menace davantage nos mineurs, nos travailleurs de l'énergie et nos entreprises que cette attaque écrasante contre l'industrie américaine. L'administration Obama avait visé à réduire d'un tiers d'ici 2030 le niveau de dioxyde de carbone émis par les centrales électriques en 2005. Le décret du président Trump annule des mesures concernant la production de charbon, de pétrole et de gaz et minimise le rôle du changement climatique dans d'autres règlements fédéraux. Il fait suite à une autre ordonnance reconsidérant les normes strictes d'efficacité en carburant des véhicules, normes imposées par Barack Obama. Dans sa proposition de budget, Donald Trump vise les programmes sur le changement climatique dans l'ensemble du gouvernement fédéral, déclare Mick Mulvaney, directeur du budget de la Maison-Blanche. En ce qui concerne la question du changement climatique, je pense que le président a été assez clair. Nous ne dépensons plus d'argent pour cela. Nous considérons cela comme un gaspillage de l'argent du contribuable, a dit Mulvaney. L'administration Trump est en contradiction avec le consensus scientifique, suivant lequel les gaz à effet de serre créés par l'homme chauffent dangereusement la planète. Et le gouvernement fédéral a l'obligation légale de les freiner, affirme le chef de la politique du Fonds pour la défense de l'environnement, Thomas Carbonell. La Cour suprême, rappelle M. Carbonell, a déjà statué à 3 reprises que l'EPA, l'Agence pour la protection de l'environnement, avait l'autorité et la responsabilité en vertu de la loi Clean Air Act pour faire face à la menace du changement climatique. Les régulateurs fédéraux devront rédiger de nouveaux règlements pour remplacer ceux que le président a annulés. Les groupes environnementaux s'attendent cependant à les contester devant les tribunaux. Le décret de la Maison-Blanche ne retire pas les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, mais les experts disent qu'il semble de moins en moins probable que les États-Unis atteindront les objectifs fixés lors de la COP21.
L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Tequila when he walked the streets of old Mexico.
Rum is the reason, c'est à cause du rum. C'est un titre de Toby Keith pour vous dire au revoir. C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Merci à la rédaction francophone de VOA Afrique, à la mise en onde Michel Joseph, à la console Thomas Blanday, présentation Anastasie Tudiech. Merci de votre fidélité. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VOA Afrique et voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous. Et